Cause à effet, le magazine de l'environnement.
Il y a un an, les mouvements de jeunes et les manifestations citoyennes pour le climat prenaient une toute nouvelle ampleur. Et le phénomène mobilisait alors des chercheurs désireux de scruter et de renseigner cette société mobilisée pour défendre la planète et l'avenir des générations actuelles et futures. La dernière manifestation mondiale pour le climat a rassemblé quelque 4 millions de citoyens dans le monde et le sommet du climat à l'ONU n'a pas comblé les attentes. Retour sur cette année de mobilisation, sur ce dernier grand rendez-vous international, pour en comprendre les arcanes, les enjeux, les espoirs, et sur cette génération climat qui donne de la voix, par le biais notamment de porte-parole, et qui suscite des réactions diverses, positive comme négative. Avec nous, Yann Lelanne, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue au Centre de recherche Individu Épreuve Société de l'Université de Lille. Vous travaillez avec vos équipes sur ces manifestations de jeunes pour le climat. À vos côtés, Maxime Gabory, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes doctorant, enseignant, doctorant de l'Université de Saint-Louis à Bruxelles. Et également avec nous, Comme Girching, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes étudiant en sciences politiques, cofondateur de l'association Jeunes Ambassadeurs pour le Climat et l'un des porte-voix de cette génération climat. Vous revenez de New York où vous étiez le représentant français au premier sommet jeunes pour le climat de l'ONU. Et en seconde partie d'émission dans l'œil du monde planète, le journaliste Stéphane Mandard nous parlera des sites Céveso en France et de la législation qui concerne ces zones spécifiques. Et puis enfin, l'Escale Verte nous emmènera à la rencontre d'une jeune auteure néerlandaise, Lieke Marsman, qui sera traduite par Eva Der. Et son dernier roman, Le contraire d'une personne, vient d'être traduit en France. Avec elle, regard sur son pays, sur les Pays-Bas et sur son œuvre de fiction qui lui permet d'exprimer ses préoccupations environnementales. Bienvenue à tous dans le magazine de l'environnement de France Culture, magazine toujours préparé par Anaï Morales, avec nos complices Anne Gouzon, Valérie Arnould, Caroline Chausset, Vanessa Chang, réalisé toujours aussi par Alexandra Malka, avec à la technique aujourd'hui le brillant Jean Guillain-Meige.
Troisième grève mondiale pour le climat. Et pour la première fois à Paris, une manifestation en visage intergénérationnel. Des enfants avec leurs parents, des adultes qui eux aussi veulent participer à la lutte pour l'environnement. Cette femme de 52 ans porte écrit sur sa pancarte son angoisse, celle que ses petits-enfants lui demandent « Tu fais quoi toi contre la fin de mon monde ?»
Le sentiment de culpabilité aussi, parce qu'on n'a pas fait les choses, on a consommé, uniquement consommé, sans penser, sans réfléchir. Pour nous, ça a été facile et pour eux, ça va être très dur.
C'était le 21 septembre dernier, manifestation pour le climat, et notamment à Paris, où l'on a décompté quelques 15 000 personnes. Alors, 15 000 personnes dans une atmosphère tendue, hein, manifestation des Gilets jaunes, grève pour les retraites, et les Black Blocs qui étaient aussi présents. Donc, un succès par contre mondial, Yann Lelanne, 4 millions dans plus de 160 pays et plus de 5 000 villes concernées, 250 000 personnes à New York, 100 000 à Londres, Berlin 260 10 000. Comment est-ce que, un an après, puisque vous avez commencé à scruter tout ça en sociologue avec vos équipes, comment est-ce que vous regardez ce mouvement et l'ampleur qu'il prend ?
Alors déjà, ce mouvement, maintenant il a un an effectivement derrière lui. Ce qu'il caractérise, c'est une forte endurance. C'est-à-dire que il agit dans l'urgence, mais il agit aussi avec une forte endurance, puisque quand on fait la somme des actions qui ont été mobilisées autour de cette question de la lutte contre le réchauffement climatique, on s'aperçoit que, en tout cas par exemple en France, où le mouvement s'est développé finalement depuis le 17 septembre de l'année dernière, il y a eu des dizaines de journées de mobilisation, il y a eu une dizaine de mobilisations de masse dans l'ensemble des villes françaises. Donc en fait, on assiste finalement à une continuité depuis un an. Effectivement, la mobilisation à Paris a connu des troubles, mais simplement on voit bien qu'il y a une possibilité pour elle de l'enjamber, puisqu'elle est raccordée à un mouvement mondial. Parfois, c'est tel ou tel pays qui se retrouve à la pointe de la lutte, mais En fait, on s'aperçoit qu'il y a la naissance de ce mouvement cosmopolite mondial qui va être extrêmement intéressant à suivre. Nous, on était très centrés pendant cette année sur le cas français. On a aussi eu quelques campagnes d'information sur ce qui se passait en Belgique, où le mouvement est très fort. Mais on est effectivement très surpris par les mobilisations de New York, Montréal, où on aimerait pouvoir aller un jour enquêter là-dessus, parce que pour voir si les mouvements se ressemblent. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont un point commun, l'ensemble de ces mouvements, c'est d'agir dans une situation d'urgence extrême. Il y a une conscience politique qui se développe autour de cette idée qu'il nous reste un délai très court pour pouvoir agir. Et ça, c'est une sorte de point commun mondial qui est particulièrement intéressant à étudier pour nous, pour voir comment est-ce qu'il forge de nouvelles consciences politiques.
Et oui, vous, sociologue, Maxime Gabory, également doctorant en sociologie et enseignant à l'université de Saint-Louis à Bruxelles, votre regard justement de chercheur et jeune en même temps sur ce phénomène. Et ensuite, bien sûr, comme Gershing, vous nous donnerez votre expérience de l'intérieur.
Je crois que le regard du sociologue, quand on s'intéresse à ces questions-là, qui sont aujourd'hui brûlantes d'actualité, c'est de pouvoir tout simplement répondre à des questions qui sont très simples, mais qui pourtant véhiculent et conduisent à des réflexions importantes. C'est-à-dire la simple question « qui sont les manifestants qui se mobilisent ?» d'un point de vue de leur parcours familial, d'un point de vue de leurs études, mais aussi jusqu'où ces gens-là sont-ils prêts à aller pour faire face à l'urgence climatique. C'est des questions sur lesquelles un grand nombre de personnes ont énormément finalement d'idées reçues, ou en tout cas d'analyses, mais qui l'est important, à notre avis, et c'est pour ça qu'on mène ce travail avec le collectif Quantité Critique et avec Yann, c'est de comprendre et d'essayer de tester l'ensemble de ces idées reçues pour pouvoir comprendre ce mouvement qui aujourd'hui ne peut laisser personne indifférent. Et la figure de Greta Thunberg le montre bien.
Qui sont-ils concrètement, pour voir si Comme Gershing rentre bien dans la catégorie?
Une de nos premières observations, et qu'on a pu observer depuis le début du mouvement, c'est-à-dire depuis les 5 mobilisations qu'on a pu, sur lesquelles on a pu enquêter, c'est une homogénéité sociale partielle avec un très fort taux de personnes venant des classes aisées et venant du salariat qualifié. Ce sont majoritairement des cadres et des professions intellectuelles supérieures. Dans l'ensemble de nos enquêtes, ce taux de cadres et de professions intellectuelles supérieures est à peu près autour de 50%. Ce qui signifie qu'il y a aujourd'hui une mobilisation qui contient une partie importante de personnes aisées et qui s'interroge aussi sur sa capacité à se déployer au-delà de ces personnes-là qui se mobilisent, parce que ça ne sont pas les seuls qui sont intéressés par l'écologie.
Peu de filières technologiques, Yann Le Lann.
Alors, effectivement, c'est-à-dire que lorsqu'on est sur les mobilisations intergénérationnelles, ce sont le salariat qualifié, comme l'a dit Maxime. Lorsque ce sont les grèves climat qu'on étudie, ce sont plutôt leurs enfants, les fils du salariat qualifié. Il y a malgré tout, en province, on retrouve des mobilisations avec des participations minoritaires importantes des catégories populaires, donc c'est pas exclusivement réservé à ces groupes sociaux. Mais en tout cas, effectivement, il faut insister là-dessus. On retrouve très peu de personnes, par exemple, issues des filières professionnelles, très peu de personnes issues des filières technologiques. Souvent, c'est analysé par le mouvement comme un problème de sensibilisation. En fait, on pense que c'est plus compliqué que ça. On pense que les étudiants, les élèves dans les filières technologiques sont souvent déjà sensibilisés. Mais il y a la question du raccordement à ce mouvement. Comment est-ce que finalement le contact se fait avec des milieux qui sont pour l'instant pas à l'intérieur de ces marches. Donc c'est moins un problème de sensibilisation que d'organisation d'un mouvement politique qui est difficile à structurer, il faut bien le dire.
Beaucoup d'étudiants en sciences sociales, notamment. Alors,
beaucoup d'étudiants en sciences sociales, beaucoup d'étudiants des filières très sélectives.
C'est-à-dire
Sciences Po. Alors là, on va retrouver peut-être
les grandes écoles.
Beaucoup de, il y a eu une activité politique très très importante sur les campus des grandes écoles au cours de l'année. Il ne s'agit pas pour nous de dire que c'est un mouvement de bobos ou comme on entend parfois, mais disons que c'est un mouvement qui est confronté à la question de son propre développement, de sa capacité à franchir ses propres barrières sociales, mais qui ne doit pas pour cela partir de l'idée qu'il y a un désintérêt pour cette question dans les groupes populaires. Ce n'est pas le cas.
Comme Gershing. Comment vous ressentez justement ce mouvement-là? Vous en faites partie depuis bien plus longtemps qu'une année. Vous êtes engagé concrètement depuis quoi, la COP21, sur cette prise de conscience environnementale et dans des mouvements. Racontez-nous un petit peu votre parcours.
Pour moi, le mode que j'ai privilégié pour commencer, ça a été l'engagement dans les instances onusiennes au départ. Donc j'ai été observateur assez longtemps, je me suis exprimé dans les dans ce qu'on appelle les constituantes de jeunesse onusienne. Donc c'est des lieux assez, en fait, très ouverts, mais où effectivement, je pense que le type de personnes qui finalement y accèdent est assez peu représentatif de la moyenne française. Et ensuite, j'ai privilégié des moyens d'action plus de l'ordre de la sensibilisation en conférence, etc. C'est vrai que les marches, pour moi, c'est quelque chose d'assez nouveau. Ça fait un an que ça existe, en tout cas, avec cette ampleur-là.
Et la régularité.
J'ai jamais eu accès aux analyses que vous présentez aujourd'hui, donc je trouve ça vraiment très intéressant. Mais moi, ça m'empêchera pas de continuer à l'international. L'harmonisation que j'essaie de trouver entre les positions de la jeunesse mondiale, où là aussi, s'il peut y avoir des perspectives très différentes, j'imagine que ça reste aussi biaisé et peu représentatif des différents États. Les jeunes qui viennent, je sais pas, du Kenya, de Taïwan ou autres, doivent pas vraisemblablement venir des classes populaires, tout simplement parce que ça coûte cher, bien souvent, d'aller à ces sommets-là, et c'est un problème dont on parle en permanence, financer les jeunes qui vont aux négociations.
Et ne serait-ce que le mouvement français étudié par Yann Lelanne, Maxime Gabory et les équipes, justement, on se rend compte qu'il y a donc surreprésentation des classes aisées, les jeunes gens diplômés, peu des filières technologiques. Et Yann Lelanne posait la question du contact. En même temps, vous êtes, comme Gierschig, la génération réseaux sociaux et vous avez vraiment ce moyen même de devenir des mouvements viraux et ça va très vite. Donc comment est-ce que vous répondez justement à Yann Lelanne ?
Pour moi, les réseaux sociaux sont plutôt des machines à enfermer qu'à ouvrir, parce qu'on choisit en général les cercles dans lesquels on s'inscrit de façon même beaucoup plus forte que dans la vie réelle. Donc je pense que ça passera pas forcément par les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de médias qui essayent de faire des nouveaux types de contenus très pédagogiques, etc. C'est la bulle écologique tourne très 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 vite, mais les liens vers l'extérieur sont assez rares. Et c'est pour ça que dans mon association, notamment les Jeunes Ambassadeurs pour le Climat, on essaye d'ouvrir, d'aller faire des conférences physiques dans des petits endroits en dehors de Paris. Alors on va aussi dans des entreprises, dans des grandes écoles, etc. Mais on va aussi dans des petits collèges de province. On essaye de diversifier au maximum le public. C'est difficile de pouvoir accéder à ces publics-là. Mais voilà, par exemple, récemment, j'ai fait une conférence à l'abbaye de Cluny. C'était des gens de la ville de Cluny. La moyenne d'âge était de l'ordre de 60 ans. Bah, c'était très bien. Mais ces occasions-là sont trop rares encore.
Alors justement, le côté mouvement qui deviendrait intergénérationnel, vous le ressentez ?
Je ne sais pas si je le ressens, mais j'ai plutôt peur d'une rupture générationnelle qu'incarne peut-être parfois Greta Thunberg, et je pense que c'est un grand danger. Je pense qu'on a tout à y perdre, en fait. Je dis pas qu'il n'y a pas de responsabilité, au moins partagée par les générations qui nous ont précédés, mais on a beaucoup à tirer de leur expérience. Et la plus grave des erreurs qu'on pourrait faire en tant que génération climat, ce serait de pas essayer de comprendre les erreurs qui ont été faites par les générations précédentes.
Je vous propose d'écouter justement les derniers propos de Greta Thunberg à l'ONU et nous revenons tout de suite sur cette question-là, ce qu'elle représente, ce qu'elle génère et puis ces questions intergénérationnelles. Je ne devrais pas être là, je devrais être à l'école de l'autre côté de l'océan. Et pourtant, vous venez nous demander à nous, les jeunes, de l'espoir. Comment osez-vous ? Vous avez volé mes rêves et mon enfance avec vos paroles creuses. Et pourtant, je fais partie des chanceux. Les gens souffrent, les gens meurent, des écosystèmes entiers s'effondrent. Nous sommes au début d'une extinction de masse. Et ce dont vous nous parlez, c'est d'argent, des contes de fées de croissance économique éternelle. Comment osez-vous ? Depuis plus de 30 ans, la science est parfaitement claire. Comment osez-vous encore regarder ailleurs ? Et venir ici, dire que vous agissez suffisamment alors qu'on ne voit pas l'ombre des politiques, des actions qui sont nécessaires. Vous dites que vous nous entendez et que vous comprenez l'urgence. Peu importe ma tristesse, peu importe ma colère, je ne peux pas y croire. Mais si vous compreniez vraiment la situation, mais que vous n'arriviez pas à agir, vous seriez mauvais et ça, je ne peux pas le croire. C'était le 23 septembre à l'ONU. Yann Lelanne, peut-être une réaction d'emblée. Agacement souvent, hein, dans une partie de la population, on voit, ou sur les réseaux sociaux, agacement provoqué par cette jeune fille de 16 ans, Greta Thunberg, suédoise, et qui donne des leçons. Mais une figure aussi emblématique, elle cristallise à la fois les passions et puis des réactions opposées.
Oui, alors c'est pour prolonger là par rapport à ce qu'a dit Côme. Moi, je ne crois pas qu'il y aura de guerre de génération sur la question écologique. il n'y aura pas de guerre de génération. Parce que on voit bien, c'est un mouvement qui descend dans la rue autour de slogans « les enfants contre les adultes » parfois, mais en vrai, personne n'est dupe. C'est des slogans qui sont très rassembleurs, très efficaces, mais on voit bien que ce qui est dénommé comme l'ennemi, c'est l'inaction politique. C'est un rapport aux politiques, au rapport à la décision souveraine des États qui est nommée par Greta Thunberg. Et donc, je pense qu'il y a finalement assez peu d'adultes qui sont agressés par le discours de Thunberg. Je pense, par contre, qu'il y a l'organisation d'une bataille politique qui est en train de se structurer pour essayer de dévaloriser, démonétiser ce qu'elle peut représenter. Et ça, c'est, on l'a vu avec les épisodes contre Trump, Sarkozy, etc. Mais c'est déjà une victoire, c'est-à-dire qu'elle a déjà réussi à assigner dans le champ de bataille Trump, Sarkozy, c'est la première chose. L'essentiel du combat et de la bataille idéologique qui se joue autour des questions écologiques en ce moment, à mon avis, c'est un peu déplacé. On parle beaucoup de Greta Thunberg, mais on voit peu la façon dont l'industrie, une série de l'industrie, par exemple, aéronautique, a au cours de l'été, et s'est obligé de se lancer dans une bataille médiatique pour justifier le fait que l'avion Europe allait venir, qu'il fallait pas s'inquiéter, qu'il fallait continuer à prendre l'avion, etc. Et ça, c'est le vrai champ de bataille autour de, est-ce qu'on est vraiment en train de réaliser la transition? Les industriels nous disent que oui. Ou est-ce que Greta Thunberg, tous ces jeunes et moins jeunes qui descendent dans la rue, ont raison de nous alerter sur le fait qu'on est sur un niveau de croissance insoutenable, etc. Donc, ils sont confrontés et chacun voit que toute une série de forces, pouvoirs économiques sont confrontés à la critique écologique. Et donc, si aujourd'hui il y a une telle bataille autour de Greta Thunberg, c'est aussi parce que ce mouvement-là, il est capable d'initier des nouvelles pratiques, d'initier des nouveaux courants politiques. Et donc, il y a une question sur la pérennité de certaines industries. Sauf que la réalité qui est mise en avant par un certain nombre de scientifiques, d'ailleurs de ce point de vue-là, le mouvement a aussi changé de position. Le mouvement écologique est en train de se servir des scientifiques pour pouvoir mener sa critique, ce qui est relativement nouveau, en tout cas, qui le fait un peu bouger de position. Mais simplement, on voit que c'est une ressource dans la bataille politique, cette position du GIEC, qui sont extrêmement efficaces. Et d'ailleurs, ce que nous dit Thunberg est parfois extrêmement simple. Elle dit, son propos, elle le résume en écouter les scientifiques. On ne peut pas continuer comme ça.
Maxime Gabory.
Je réagis à ça en apportant simplement quelques éléments à cette question de rupture générationnelle. Je pense qu'il ne faut pas oublier qu'au moment où ce mouvement, dans sa forme actuelle, est né, il y a un an, c'est né de manifestations justement transgénérationnelles et le discours autour de ces mouvements était alors de parler d'un mouvement citoyen au-delà des clivages politiques. Et ça n'est qu'à partir de janvier et à partir du moment où les grèves pour le climat ont pris une dimension beaucoup plus importante que le discours sur ce mouvement a changé et on a parlé d'un mouvement de jeunes. Alors même que quand on regarde qui sont les personnes qui sont mobilisées dans les manifestations transgénérationnelles et dans les manifestations pour le climat, finalement ce sont les mêmes idéaux et les mêmes valeurs qui sont mises en avant. C'est effectivement la critique du système économique tel qu'il est aujourd'hui.
C'est-à-dire le système capitaliste.
Le système capitaliste.
L'ultra-production et l'ultra-consommation, c'est
et
ça?
Effectivement, dans nos enquêtes, on a notamment posé une question sur la possibilité ou non de transitionner écologiquement à l'intérieur du système capitaliste. Et les résultats, bien loin de l'idée d'un mouvement citoyen qui dépasserait finalement la question du rapport à l'économie, étaient extrêmement en faveur d'un anticapitalisme soutenu par une grande majorité des manifestants. Et ça, que l'on soit jeune, lycéen, étudiant, ou que l'on soit plus âgé, que l'on soit actif, ou que l'on soit retraité. L'ensemble des populations qui se retrouvent dans ces mouvements-là partagent un même idéal, et même s'il y a des clivages à l'intérieur, mais en tout cas, cette dynamique-là, elle est perceptible dans l'ensemble des générations, et même pour aller un tout petit peu plus loin, quand on regarde le rapport qu'entretiennent ces jeunes-là avec leurs parents, c'est un rapport extrêmement apaisé, c'est-à-dire qu'ils ne déclarent pas se disputer avec leurs parents pour des raisons écologiques ou pour d'autres raisons. On est très loin du discours de la rupture générationnelle.
Comme Gershing, alors il y a plusieurs niveaux de discussion et réactions là sur les propos intergénérationnels, etc. et aussi sur la figure de Greta Thunberg et les attaques qu'elle suscite, qu'elle génère.
Alors je vais juste réagir déjà à une chose, c'est que notamment la notion d'anticapitalisme, alors je ne sais pas quel a été le périmètre de vos recherches, Effectivement, en France, j'ai l'impression que c'est... Enfin, je ne veux mettre absolument pas en cause vos résultats sur la France, et c'est quelque chose qu'on voit absolument partout et qu'on entend très fréquemment. Mais justement, moi, j'allais à New York avec l'espoir d'essayer de mettre ça en regard de la vision, par exemple, des jeunes qui manifestent dans les pays en développement. Que pense un jeune centrafricain? Que pense un jeune béninois? Que pense, etc. Ces jeunes-là n'ont pas forcément la même optique que nous des règlements climatiques et des solutions qui convient d'y apporter. Je vous donne un exemple. J'ai eu la chance de discuter là-bas avec la représentante jordanienne qui était donc musulmane, et qui m'a expliqué qu'il était normal d'exploiter toutes les ressources fossiles qui existaient, puisque Allah les avait mises dans le sol et nous y avait donné accès, donc il était normal de les exploiter, mais il fallait bien sûr faire du stockage de carbone direct, c'est-à-dire ne pas émettre un seul kilo de CO2 de plus, mais voilà, enfin, qu'on soit d'accord ou pas, peu importe, mais ce que j'attendais de New York, c'était qu'on ait ce genre de débat, ce genre de croisement d'optique, de prisme un peu, de compréhension du problème du dérèglement climatique, et ça n'a pas eu lieu.
En sachant, il faut rappeler que donc vous étiez 100 jeunes de 100 pays rassemblés pour le premier sommet climat jeune, qui c'était la veille du fameux sommet qui a rassemblé les dirigeants et les décideurs.
On a été 100 jeunes invités et il y a eu 500 jeunes en tout.
Et alors justement, retour d'expérience, comme Gershing, sur votre sentiment au cœur de l'ONU, dans ce rassemblement. Est-ce que vous avez eu l'impression que vos attentes de jeunes étaient entendues, ou vous avez été face à une institution et des personnes hors sol?
Les jeunes qui étaient là n'étaient pas du tout hors sol. C'était des jeunes pères ou mères de famille, des jeunes entrepreneurs ou entrepreneuses, etc. Ou des jeunes étudiants ou étudiantes. C'était pas du tout forcément une jeune élite ou qui était dans les canaux onusiens depuis très longtemps. Donc la discussion aurait pu avoir lieu. Le problème, ça a été la structure, le process de cette journée. Le sommet n'a duré qu'une journée, ce qui est scandaleux du point de vue écologique. Mais le sommet n'a quand même duré qu'une journée. En fait, pendant ces 8 heures de sommet ou 10 heures, il y a eu une succession de petites conférences avec des gens qui passaient à la tribune, des gens qui avaient été sélectionnés avant. Et il n'y a eu aucune discussion, ce qui est dommage, parce que c'est quand même rare d'avoir des jeunes qui viennent vraiment de tous les pays du monde, peut-être à l'exception de la Corée du Nord, qui sont rassemblés dans une même salle avec des traducteurs, des micros, des caméras, bref, toute l'infrastructure nécessaire pour débattre à 500. On aurait très bien pu établir une déclaration, même courte, même symbolique, mais ça aurait été un début de réflexion. Je dis ça parce que une des choses qui m'agace le plus, c'est de s'imaginer que la jeunesse n'a pas de revendication un peu précise. Et c'est un des leviers principaux de sa décrédibilisation, c'est dire oui, mais ok, une fois qu'on a dit on est capitaliste, qu'est-ce qu'on fait?
Et une fois qu'on fait des reproches aux générations précédentes, qu'est-ce qu'on avance? C'est voilà. Le reproche qui est aujourd'hui soulevé.
Et pour moi, ce que je vois dans les réseaux de jeunesse parisiens, français, et même ce que j'ai pu voir à l'ONU, c'est que, en fait, les jeunes ont beaucoup d'idées là-dessus. On aurait très bien pu débattre des nouvelles modalités du commerce international. On aurait très bien pu débattre de la géo-ingénierie. Toutes ces choses-là, on
a pas besoin. De la place du travail, de l'éducation.
De l'éducation. Tous ces sujets-là me passionnent personnellement et passionnent tous les jeunes engagés à l'heure actuelle. Et on est capable d'amener des revendications un peu plus précises que juste on est anticapitaliste, parce que personne ne sait ce que ça veut dire être anticapitaliste. Est-ce que ça veut dire plus de pub? Est-ce que ça veut dire plus de prêts à intérêt? Est-ce que ça veut dire plus de banque? Est-ce que ça veut dire plus de commerce? J'en sais rien. Mais c'est ce genre de choses dont on aurait pu débattre, encore une fois, et ça n'a pas été le cas.
Et la figure de Greta Thunberg, justement?
J'étais dans une situation un peu particulière pendant le discours de Greta, puisque j'étais assis à côté du président Macron, et je vais vous dire ce qu'il m'a dit quand Greta a commencé son discours. Il m'a dit « Oh là là, mais moi j'ai pas envie qu'elle me critique, j'ai envie qu'elle m'aide ». Moi, j'ai trouvé ça assez intéressant parce que je m'attendais pas à ce que un dirigeant politique ait cette approche-là. Je m'attendais à ce qu'ils disent, oh là là, c'est très bien, elle a raison, il faut qu'on agisse. Mais non, en fait, lui, il est encore dans cette logique de, on attend des inputs de la jeunesse. Et moi, ça, j'y crois plus du tout. Je pense que on a le temps où la génération climat toque à la porte du politique pour espérer être entendu et révolu, et que ça ne marchera pas comme ça. J'attends vraiment que la génération climat remplace, en fait, ou s'inscrive directement elle-même dans le processus politique.
Et vous lui avez parlé concrètement de ça?
Oui, je lui ai plus parlé du commerce international, du libre-échange, de sa vision, etc. Mais oui, je lui ai aussi parlé...
Du CETA, du TAFTA.
Exactement, oui. J'ai constaté qu'on n'était vraiment pas du tout sur la même longueur d'onde. Après, mon avis, voilà, c'était juste mon humble avis. Je ne dis pas que c'est l'avis forcément de toute la jeunesse française, mais j'ai le sentiment qu'il faut absolument avoir des économies beaucoup plus locales. Et ce n'est pas du tout qu'une question d'empreinte carbone. C'est une question de reprise en main générale de l'organisation sociale, du contrôle démocratique, de son inclusion sociale, etc. C'est pas, quand on fait une analyse macroéconomique et environnementale du CETA, pour moi, c'est presque inutile. Et voilà, on n'a pas du tout saisi l'impact que pourrait avoir un tel accord.
Je propose d'écouter quelques propos d'Emmanuel Macron le 23 septembre dernier.
On a besoin de nos jeunesses dans nos pays. pour nous dire d'aller plus vite. On a besoin de cette jeunesse pour nous aider à changer les choses, à réparer, à agir, à mettre plus de pression sur celles et ceux qui ne veulent pas bouger, État, financeurs, entreprises. Dans ce cadre-là, ce que nous avons fait tous les trois, durant ces derniers mois et sous le mandat du secrétaire général des Nations Unies, c'est justement d'essayer d'avancer. Et je crois qu'il y a un agenda d'action qui n'est pas dans la satisfaction de lui-même ou dans le contentement, mais qui peut être un agenda d'action positif. D'abord, nous devons collectivement, chefs d'État et de gouvernement, changer la rapidité de nos réponses, rester dans l'accord de Paris et être pleinement en conformité avec ses objectifs.
France Culture, de cause à effet, le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau.
Yann Lelanne, une réaction?
Oui, c'est vraiment intéressant la façon dont les choses se déroulent en ce moment. C'est-à-dire qu'il y a un traitement du mouvement par le gouvernement qui est très spécifique, qui est très différent de tous les autres mouvements qui le critiquent. Le gouvernement essaye de coller systématiquement au mouvement en expliquant que le mouvement le pousse à s'améliorer, etc. Bon. C'est aussi pour ça qu'on a enquêté sur le mouvement, parce que à force de communication gouvernementale, on s'est posé la question, on s'interrogeait, mais quel est l'avis des participants sur le gouvernement, sur l'action d'Emmanuel Macron? Est-ce qu'ils rentrent dans cette bipolarité Trump contre Macron, Bolsonaro contre Macron? Est-ce qu'ils en sont? Ou est-ce qu'ils ont un regard là-dessus? Bon, les résultats sont assez unilatéraux de ce point de vue-là. Premièrement, il y a très peu de gens qui ont participé au conglomérat électoral Macron à l'intérieur de la mobilisation. Beaucoup moins que ce qu'on imaginait. 12% sur la première mobilisation internationale, donc il est vraiment sous-représenté en tant que candidat. Mais même lorsqu'on interroge cette partie qui a voté pour lui, qu'on lui demande est-ce qu'il est conséquent, est-ce que c'est le meilleur candidat sur la question écologique, on s'aperçoit que, dans la plupart des cas, les gens ne le citent pas comme une personnalité conséquente, donc y compris ses électeurs ne le citent pas comme une personnalité conséquente sur la question écologique.
Et les autres ont voté pour qui?
Les autres ont voté principalement pour deux candidats, Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon, puisque les mobilisations appartiennent en fait au camp de la gauche, et il n'y a pas ou très peu de participation issue de la droite, et les participations du centre sont très très minoritaires. Donc la stratégie du gouvernement vise à coller à un mouvement qui le critique sans arrêt, et qui, on l'a vu avec la rentrée, Blanquer qui fait la rentrée sous le signe de l'écologie, etc. Mais ces participants, ils estiment que Macron est irresponsable, comme les autres chefs d'État. Donc l'idée de Macron d'aller demander aux manifestants d'aller manifester en Pologne comme s'il y avait les bons responsables politiques de l'autre, ça, du point de vue du regard porté par les manifestants, ça ne correspond à pas grand-chose.
C'est pas les attentes, c'est-à-dire que là où Emmanuel Macron confie à Comme Gersching, mais j'ai besoin du soutien des jeunes et pas d'être critiqué, le mouvement jeune, Comme Gersching, lui dit, nous on veut des actes et non plus des paroles politiques.
Oui, alors des actes, il y en a évidemment des actes de la part du ministère de l'Environnement, on peut même évoquer le Conseil de défense écologique, la Convention citoyenne, etc. Le problème, c'est que le paradigme n'est pas le bon, et le ministère de l'Environnement peut faire ce qu'il veut en termes d'économie circulaire, d'harmonisation des couleurs de poubelles de tri, quand même, à le rappeler Madame Poisson. Si de l'autre côté, les arbitrages qui sont faits par le ministère de l'économie ou le ministère des Affaires étrangères ne prend pas ça en compte ou prend ça en compte au second plan, rien ne changera en fait. Rien ne changera en termes de gestion de l'urgence. Ça, c'était très bien pour les questions de développement durable, pour concilier une croissance verte à l'écologie. Mais là, on a franchi ce qu'appelait le développement durable, c'est quelque chose du passé. Il y a un nouveau stade d'urgence, on sait que maintenant notre budget carbone, voilà, dans 12 ans en fait, il faudrait qu'on ait atteint la neutralité carbone, théoriquement en 2030. Sinon, on risque de dépasser des points de non-retour, comme la fonte de l'Arctique, comme la déstabilisation du permafrost et de la calotte du Groenland. Et ces points de non-retour, en fait, risquent, enfin moi c'est une de mes craintes principales, de déclencher un recours un peu aveugle à la géo-ingénierie, parce qu'on réalisera qu'il sera impossible de réduire nos émissions autrement que par ça.
Et cette géo-ingénierie, ça vous inquiète ?
Ça m'inquiète énormément. Et je pense que c'est typiquement le genre de choses sur lesquelles la jeunesse devrait s'exprimer. Pour moi, c'est comparable au nucléaire dans la nécessité d'une gouvernance vraiment puissante et rapide et multilatérale. C'est quelque chose dont on ne pourra pas se passer. Arrivera, je pense, un jour où on frôlera ces points de non-retour géophysique, donc par exemple la fonte de l'Arctique, et on dira, bah oui, mais là c'est vraiment trop tard, on est obligé d'envoyer des missiles de soufre dans la stratosphère, et c'est quelque chose qui est économiquement tout à fait rentable. C'est très très peu cher de faire ça. Et évidemment, ça pose plein de problèmes en termes de déséquilibre des moussons, donc potentiellement une foule de conséquences qui, pour l'instant, est très très peu étudiée parce qu'il n'y a pas d'organe de gouvernance de la géoingénierie. Et la jeunesse mondiale est très très consciente de ce problème-là.
Maxime Gabory ?
Oui, pour revenir un peu sur l'ensemble de ces questions, ce qu'il apparaît, c'est qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins une confiance dans l'idée qu'il suffirait d'interpeller le gouvernement sur un certain nombre de sujets pour que des actes politiques soient mis en place. Et à l'intérieur du mouvement, ça se traduit par un débat qui se situe non pas sur une question de la bonne option à défendre et par une interpellation du gouvernement sur la bonne politique écologique à défendre, en tout cas pas seulement, les débats à l'intérieur du mouvement portent plutôt sur comment on va finir par obliger les gouvernements à mettre en place des mesures écologistes. Et ça passe du coup par la question de la radicalité du mouvement. Et c'est là, pour revenir sur ce que disait Yann, que le travail d'équilibriste un peu qu'essaye de faire le gouvernement est devenu très compliqué parce qu'il est contraint d'opposer finalement cette jeunesse qui se mobiliserait dans la rue tout en condamnant les actions de désobéissance civile, les décrochages de portraits, mais aussi les actions de blocage, d'extinction, rébellion. Comme si finalement il y avait deux mobilisations. Dans une mobilisation dans la rue des manifestations, celle qui voudrait interpeller le gouvernement, et une mobilisation de la désobéissance civile, celle qui voudrait obliger le gouvernement par des actions parfois à la limite de la légalité. Quand on regarde le soutien dans les mobilisations de ces actions de désobéissance, on se rend compte qu'il est absolument majoritaire, voire quasiment unanime.
Ce que vous dites, c'est que finalement, enfin tous les trois, la demande de ces mouvements, de ces manifestations, qu'on dit manifestation génération climat jeune, mais qui deviennent intergénérationnelles, c'est une refonte du système politique. Yann Le Lan.
Oui, et qui est prêt à s'en donner les moyens, c'est-à-dire qui est prêt à passer à des niveaux d'action, désobéissance, blocage, ou, pour ceux qui ne y participent pas, les soutenir, parce qu'il y a aussi ceux qui souhaitent continuer à marcher, mais qui sont prêts à soutenir ceux qui vont faire d'autres types. Et derrière, c'est l'idée que, de toute façon, ce système politique, ou cette démocratie telle qu'elle est organisée, elle ne peut pas assumer la question écologique sans être contrainte, très fortement. Et y compris pour cela, les marches en sont un gigantesque point de rassemblement. Tout le monde les soutient. Elles sont critiquées parfois, mais ont une très large partie des acteurs du mouvement les soutient. Mais tout le monde a conscience qu'elles sont incomplètes et qu'il faut, si l'on veut aller jusqu'au bout de d'une transition démocratique nécessaire pour l'écologie, essayer d'intensifier les actions. C'est la grande question du mois de septembre. C'est-à-dire que le mouvement écologiste revient avec l'idée qu'il a à nouveau, certes, eu les succès d'une année, mais qu'une année a été consommée dans ce délai qui est particulièrement court. Donc, quelles sont les perspectives qui permettent de, pardonnez-moi l'expression, tordre le bras au gouvernement, puisque c'est comme ça que les termes sont posés à l'intérieur du mouvement. Il n'y a pas, ne se considère pas comme un appui, etc. L'essentiel des participants estime qu'il faut forcer. Et donc, pour cela, toute une série de stratégies sont en train d'être débattues à l'intérieur du mouvement, qui vont à la fois du recours juridique jusqu'à des stratégies de blocage.
Alors nous allons parler de ces stratégies dans un instant, juste après le choix musical de Comme Gershing, qui n'est pas sans rapport avec d'ailleurs ces actions un petit peu coup de poing. Vous avez choisi de nous faire entendre
Aurel San.
Suicide social.
Suicide social, oui.
Donc là aussi des propos assez intenses.
Qui me parle énormément parce que c'est un regard qui... Bon, évidemment, il faut le prendre au second degré. Je pense que c'est pas... Aurel San ne pense pas à tout ce qu'il dit dans cette chanson, mais il incarne le mal-être social de plein de points de vue différents. Et je pense que c'est quelque chose qu'on oublie notamment dans ces mobilisations climat, où effectivement c'est une élite et on s'en rend compte, c'est les CSP+, qui défilent dans la rue, c'est les gens des grandes écoles ou cadres supérieurs. Et on tend parfois à oublier que en fait les mesures qu'on va avoir à mettre en place devront absolument être justes socialement, et c'est un des mots d'ordre de la nouvelle Convention citoyenne. Et le mouvement des Gilets jaunes aussi a bien montré que voilà, une taxe carbone qu'on ne pense pas en termes redistributifs n'est de toute façon pas efficace, même si du point de vue économique elle est bien pensée, ça ne marche juste pas. C'est évidemment une question politique, mais c'est aussi une question juste pragmatique. Ça ne peut pas marcher la transition écologique s'il n'y a pas de justice sociale.
Aujourd'hui sera le dernier jour de mon existence, la dernière fois que je ferme les yeux, mon dernier silence. J'ai longtemps cherché la solution à ces nuisances, ça m'apparaît maintenant comme une évidence. Fini d'être une photocopie, fini la monotonie, la lobotomie. Aujourd'hui, je mettrai ni ma chemise ni ma cravate. J'irai pas jusqu'au travail, je donnerai pas la patte. Adieu les employés de bureau et leur vie bien rangée. Si tu pouvais rater la tienne, ça les arrangerait. Ça prendrait un peu de place dans leur cerveau étriqué. Ça les conforterait dans leur médiocrité. Adieu les représentants grassouillés qui boivent jamais d'eau comme s'ils voulaient pas se mouiller. Les commerciaux qui sentent l'aftershave et le cassoulet. Mettent la mayonnaise sur leur mallette, ils se la boufferaient. Adieu, adieu les vieux comptables séniles. Adieu les secrétaires débiles et leurs discussions stériles. Adieu les jeunes cadres fraîchement diplômés qu'empileraient les cadavres pour arriver jusqu'au sommet. Adieu tous ces grands PDG. Essaie d'ouvrir ton parachute doré quand tu te fais défenestrer. Ils font leur peur sur des salariés désespérés et jouent les vierges effarouchées quand ils se font séquestrer. Tous ces fils de quelqu'un, ces fils d'une pute snob qui partagent les trois quarts des richesses du globe. Adieu ces petits patrons, ces pauvres bourgeoisés qui grattent les RTT pour payer leurs vacances d'été. Adieu les ouvriers, ces produits périmés. C'est la loi du marché mon pote, t'es bon qu'à te faire virer. Ça t'empêchera d'engraisser ta gamine affreuse qui se fera sauter par un pompier qui va finir coiffeuse. Adieu la campagne et ses familles crasseuses proches du port au point d'attraper la fièvre rafteuse, toutes ces vieilles, ces commères qui se bouffent entre elles, ces vieux radins et leurs économies bout de chandelle. Adieu cette France profonde, profondément stupide, cupide, inutile, putride. C'est fini, vous êtes en retard d'un siècle.
C'était Suicide social de Aurel San, le choix musical de Côme Guirching, diplômé de Sciences Po, cofondateur de l'association Jeune Ambassadeur pour le Climat et représentant français au premier sommet Jeune pour le Climat de l'ONU à New York. Avec nous aussi Yann Lelan, sociologue au Centre de Recherche Individus, Épreuves et Sociétés de l'Université de Lille. Et puis Maxime Gabory, qui est donc doctorant enseignant de l'Université de Saint-Louis à Bruxelles et lui-même embarqué, si je peux me permettre de dire ainsi, dans l'équipe de Yann Lelan et sur cette analyse des manifestations mouvement jeune, génération climat qui donne une toute autre ampleur en tout cas et une toute autre visibilité depuis un an. Juste avant ce choix d'Aurel San, nous étions en train de parler de transition démocratique et de diversification tactique. En un mot, Côme Guirching, les jeunes, quelle place doivent-ils peut-être prendre aujourd'hui plus largement? Quelles sont ces stratégies ou ces façons, ces envies de mobiliser leur énergie, de donner à entendre aussi leurs paroles, leurs attentes aujourd'hui?
Je pense qu'il faut vraiment garder à l'esprit que la diversification des tactiques est ce qui fera la valeur de ce mouvement-là. Ça va de marcher dans la rue, s'investir dans une association qui fait de la sensibilisation, faire de la désobéissance civile, taguer des pubs, bloquer des ponts, pourquoi pas, participer à des recours judiciaires, aussi produire, je sais pas, des films qui construisent un nouvel imaginaire. Il faut pas privilégier une tactique plutôt qu'une autre. C'est cette diversité tactique-là qui fera la valeur du mouvement, encore une fois. Et pour la jeunesse, il y a un levier qu'il faut pas oublier, c'est aussi investir les instances politiques existantes, les conseils municipaux, régionaux. Pourquoi pas se présenter aux législatives ou autres? Il faut, utiliser tous les leviers. Et je dis ça parce que...
Y compris la justice, puisqu'il y a eu cette plainte aussi déposée par les 16 jeunes âgés de 8 à 17 ans, dont Greta Thunberg le 23 septembre.
Oui, ça en fait partie, oui. Oui, et puis l'affaire du siècle aussi. Enfin bon, tous les leviers sont bons, encore une fois. En fait, quand on regarde certains événements historiques qu'on aime souvent qualifier de résistance pacifique, qui ont donné lieu à des bouleversements institutionnels, je pense évidemment à l'indépendance de l'Inde, on oublie souvent que derrière ce mouvement-là, en fait, il y avait énormément de violence. Et si Gandhi s'est retrouvé à la table de négociation avec les colons britanniques, c'est parce que, entre autres, il y avait cette violence-là derrière. Je pense que c'est important d'avoir un regard éclairé sur la désobéissance civile, parfois violente, sur le matériel, j'entends. C'est nécessaire.
Maxime Gabory.
Oui, c'est un des enjeux et aujourd'hui un des cœurs du débat dans ce mouvement-là et que nous, on arrive à saisir avec ce qu'on obtient des manifestations. C'est finalement cette incompatibilité entre des moyens d'action qui seraient consensuels et l'urgence sociale. C'est-à-dire que il est nécessaire, sans pour autant abandonner les autres modes d'action, mais pour une partie d'entre eux, de questionner les limites de qu'est-ce qu'il est possible de faire en tant que manifestant et pour le climat pour faire réagir les politiques. Alors, dans les mobilisations que nous, on a étudiées, il y a aujourd'hui encore une forme de rejet en partie de la dégradation des biens principalement et encore plus dès qu'il s'agit d'affrontements avec les personnes, mais qui sont aujourd'hui des choses qui sont mises en débat et à l'intérieur du mouvement, de savoir jusqu'où peut-on définir la non-violence ? La non-violence étant l'un des éléments centraux dans l'agrégation d'un certain nombre de participants à ces mobilisations. Aujourd'hui, une des questions que le mouvement se pose, c'est est-ce que la dégradation d'un bien matériel, est-ce que c'est de la violence ou est-ce que l'urgence sociale le justifie ? Et aujourd'hui, la question reste encore ouverte et c'est l'une des questions centrales du mouvement pour le climat.
Est-ce que Extinction Rébellion, c'est de la résistance civile ?
Absolument. En tout cas, eux le pensent comme tel.
Et non-violent ?
Non-violent, ils le disent eux-mêmes, ils se définissent comme non-violents. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir comment les associations et les mouvements qu'on considère comme les plus radicaux à l'intérieur du mouvement se disent également non-violents. Pour autant, à l'intérieur, il y a des acceptations très différentes de ce qu'on entend par non-violent. Et c'est un enjeu central de lutte à l'intérieur du mouvement, de savoir où se situe la frontière entre ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, ça n'est pas la question de la légalité qui est centrale pour définir si une action est légitime ou pas. C'est quelque chose d'autre, c'est quelque chose du rapport à la violence. Et aujourd'hui, dans le mouvement, le débat est entier.
Yann Le Lan, est-ce que ces jeunes font peur au pouvoir parce que potentiellement le mouvement peut plus massivement embarquer les classes populaires ?
Il fait peur notamment parce qu'il met en place cette diversité tactique. C'est-à-dire qu'il a une zone d'action dans un champ économique avec des stratégies de boycott, des stratégies de sélection de produits. Il essaye donc, et ça, c'est en général connecté, contrairement à ce qu'on pense. C'est pas un écosystème, entre guillemets, d'action qui est déconnecté d'une conscience politique qui aspire à un changement de société, souvent anticapitaliste, souvent en rupture avec les normes de la société de consommation. Il y a une sorte d'articulation qui est souvent mal comprise entre des pratiques individuelles, le fait de soi-même être engagé dans la sélection de ses produits, boycotter les produits qui viennent de trop loin, etc. Et une aspiration à un changement systémique. En fait, les deux fonctionnent à l'intérieur de la mobilisation de façon très forte. La question, elle est plus pour les franges qui pensent qu'on peut transitionner sans rupture. Là, il y a une question, parce que cette partie-là de la mobilisation considère que les choix individuels sont stratégiques et il n'y a pas de choix souverain du politique à réaliser. Mais en général, ces personnes-là sont moins engagées dans des stratégies de choix de produits, dans des tactiques de boycott que les autres. Donc, elles se retrouvent en quelque sorte à espérer qu'on puisse transitionner à l'intérieur du système sans elles-mêmes mettre en œuvre ces différents modes d'action. Lorsqu'on est sur ce qui fait peur aujourd'hui au pouvoir, le pouvoir ne tremble pas, il ne faut pas exagérer, mais on le voit bien, ce qui fait peur au pouvoir économique ou au pouvoir politique aujourd'hui, c'est des articulations entre des courants de boycott, des articulations entre des marches puissantes, et le fait qu'il y ait une conscience politique en rupture avec le système. Là, on est sur ce qui pourrait correspondre à une crainte du gouvernement ou du système politique en général.
Merci à tous les trois. On va bien sûr suivre l'évolution de vos études, de vos travaux. Je précise que pour les auditeurs, bien sûr, toutes les informations et les liens seront sur notre site accessible, hein, le site de l'émission de Cause à Effet, sur franceculture.fr. Mais restez avec nous, c'est la suite de notre émission avec l'œil du monde planète. Direction la rédaction des pages planète du journal Le Monde, notre partenaire média, et dans l'actualité qui touche à l'environnement, coup de projecteur sur une info choisie par l'un des journalistes du quotidien. Aujourd'hui, dans l'œil du monde planète, nous sommes en liaison avec Stéphane Mandard. Bonjour.
Bonjour Aurélie.
L'incendie de l'usine chimique Lubrizol à Rouen a soulevé des inquiétudes, bien sûr, sur la nocivité des produits qui se sont enflammés et puis sur les risques aussi sanitaires. Et donc Stéphane, votre dernière enquête porte sur les sites Seveso en France. Alors dites-nous, quelles sont les règles et les contrôles qui s'appliquent sur ces sites-là ?
Alors c'est vrai que l'incendie de Lubrizol a rappelé aux Français qui n'étaient pas à l'abri de gros accidents avec des risques industriels importants. On avait oublié hein, depuis AZF, on pensait que c'était du passé. Et en fait non, il y a 1312 sites Seveso en France qui sont censés être surveillés comme le lait sur le feu par les instances, par les autorités qui dépendent du ministère de l'Environnement et la direction des problèmes de techniques et technologiques. Donc ils sont censés avoir des autorisations pour pour notamment utiliser des produits qui sont dangereux. Mais on s'aperçoit que depuis une dizaine d'années, les réglementations sont de plus en plus souples, que les contraintes qui pèsent sur les exploitants de ces sites dangereux sont de plus en plus desserrées. Ne serait-ce qu'un exemple par rapport au site donc Seveso de Lubrisol à Rouen, en janvier et en juin, c'est tout récent, l'exploitant a pu obtenir l'autorisation directement du préfet d'augmenter sa capacité de stockage de produits dangereux sans passer par une étude d'impact. Avant, jusqu'en 2018, c'était obligatoire de passer par une étude d'impact environnemental, c'est-à-dire d'évaluer les risques. C'était soumis à une commission, ce qu'on appelle l'autorité environnementale en région. Et depuis ce décret, c'est la fameuse loi ESSOC qui est censée établir la confiance pour la croissance. Hein, c'est son nom qui avait été faite par Emmanuel Macron lorsqu'il était ministre de l'économie. Depuis cette loi, le préfet peut décider directement, sans étude d'impact, d'autoriser ce type de modification. C'est un exemple.
Et comment vous, finalement, Stéphane Mandard, vous analysez cette souplesse de la législation? Donc, on comprend que c'est passé par une loi, mais est-ce qu'il y a d'autres, ou des raisons spécifiques?
Alors, cette simplification était justifiée par le fait de pouvoir donner plus de moyens aux inspecteurs pour aller contrôler sur place, pour réduire les temps d'instruction. Mais quand on regarde sur une dizaine d'années le nombre d'inspections, d'enquêtes qui a été faites dans ces installations classées, il y en a 500 000, dont un millier sont dites Seveso, donc les plus dangereuses. Si on regarde les chiffres, en 2006, il y avait environ 30 000 inspections. Et en 2018, c'est les chiffres les plus récents, on est à 18 000. Donc, il y a quasiment deux fois moins d'inspections sur 10 ans. Donc, on voit que cette simplification n'est pas allée de pair avec un renforcement des contrôles.
Donc, ça veut dire que potentiellement, on aurait pu faire des économies sur les moyens pour exécuter les contrôles?
Alors, ce que disent, moi, les inspecteurs du travail que j'ai eu au téléphone, les spécialistes du droit aussi, c'est que beaucoup de mesures qui ont été prises finalement visent à simplifier la vie des exploitants, mais diminuent le niveau d'exigence de protection de l'environnement et des populations. Et donc il y a un nouveau décret qui est en cours de discussion. Le gouvernement que j'ai contacté promet, se fixe comme objectif d'ici 2022, je cite, d'augmenter de 50% ses contrôles, mais aujourd'hui c'est pas le cas. Là, concernant Lubrisol, il se veut rassurant en disant qu'il y a eu 39 inspections de réalisées, dont 10 depuis 2017. Mais on voit bien que même les dernières, qui remontent à 2017, avaient écrit qu'il y avait un risque au maximum sur 10 000 ans qu'il y ait un incendie. Donc ça montre aussi là qu'il y a des trous dans la raquette aussi au niveau des contrôles qui sont faits par les inspections.
Donc une source potentielle d'inquiétude, Stéphane Mandard, peut-être pour les populations locales avec cette situation. On peut renvoyer nos auditeurs sur votre article complet à retrouver sur notre site et sur le site lemonde.fr. Merci à vous.
Merci à vous.
France Culture, de cause à effet, le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau.
L'escale verte. Chaque semaine, nous partons du côté d'une ville, d'un village, d'un lieu en France, en Europe ou ailleurs dans le monde, pour y découvrir des endroits préservés ou des secteurs en danger, des initiatives positives ou négatives, avec un invité, acteur lui-même dans son domaine de la transition en cours. Aujourd'hui, notre invité est originaire des Pays-Bas et son domaine d'action est la littérature. Bonjour Lieke Marsman.
Hi, nice to be here.
Merci d'être avec nous et à vos côtés l'interprète Eve Dare pour justement nous permettre d'être au plus près de vos préoccupations environnementales et de votre action. Vous êtes jeune auteur de romans et votre dernier livre paru en France chez Rue de l'Échiquier s'intitule « Le contraire d'une personne ». Est-ce que vous participez vous-même aux manifestations pour le climat aux Pays-Bas?
Yes, definitely, yes.
Oui, absolument, j'y suis.
I wrote this book, I started 4 years ago.
J'ai écrit ce livre, je l'ai commencé il y a 4 ans. Quand on parlait déjà beaucoup du dérèglement climatique, mais pas autant que maintenant, bien sûr. Ce qui m'a poussé à l'écrire, c'était que je voulais creuser la question, comprendre davantage ce dont il s'agissait. Et en découvrant ce qu'était ce changement climatique, ce dérèglement, eh bien, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Et c'est de ça dont traite le livre, je crois aussi, une jeune femme qui se pose des questions légitimement sur le dérèglement climatique et quel peut être son rôle et ses actions à elle.
Alors concrètement, vous avez quel âge ?
I'm 29.
J'ai 29 ans.
Et donc cette génération climat dont vous faites partie, qu'est-ce qu'elle signifie pour vous ?
Personally, I think the youths that are in the street now,
personnellement, je pense que les jeunes qui marchent dans la rue, qui vont à ces manifestations, sont un peu plus jeunes que moi. Mais ma génération a vraiment compris qu'il fallait soi-même avoir des actions positives pour l'environnement, à travers des actions individuelles, ce qu'on mange, ce qu'on consomme, les vêtements qu'on achète, etc. Et c'est très encourageant. Ça fait du bien de voir combien la nouvelle génération comprend que justement ça va bien au-delà des actions individuelles. Il s'agit de modifier un système entièrement. C'est ça qu'il faut. Et ça fait du bien d'entendre cette prise de conscience.
Et votre livre donc met en scène votre engagement lié que Marsman et votre inquiétude face à l'environnement. Est-ce que c'était votre ambition de départ?
I think what I wanted to do was just to understand it more, and I wanted to.
Ce que je voulais faire au départ, c'était creuser la question et puis prendre position. Mais pour savoir se positionner face à cette grande question telle que celle-là, il faut connaître les faits, les chiffres, avoir une information fiable. Donc, j'ai effectué des recherches. Et j'ai lu les ouvrages des scientifiques, ce qu'ils ont à dire, les gens du GIEC, etc. Et j'ai pris conscience du fait qu'en fait, la situation était bien pire que ce que je le croyais.
Alors dites-nous justement, plongez-nous dans votre roman. Quelles sont les héroïnes de ce roman et qu'est-ce qui s'y passe sous votre plume ?
Alors je parle de mon personnage principal, Ida, une jeune femme qui a étudié la science du climat. Elle est à un moment de sa vie où elle se demande vers quoi elle va se tourner. Donc elle regarde un petit peu en arrière, le chemin parcouru jusque-là. Mais vous savez, c'est une intello, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans sa tête. Par exemple, elle ne va pas sortir manifester. Mais plus ça avance, plus elle s'inquiète de l'état du climat. Elle lit il y a beaucoup de citations sous la plume de penseurs, de philosophes qui ont réfléchi à la relation des humains avec le monde, avec la terre qu'ils habitent. Donc, à mesure que le roman se déroule, Ida comprend qu'elle doit agir à travers ses études, la science du climat, et elle se rend pour un stage en Italie. Elle travaille sur un grand barrage qui risque de céder. Et c'est là que l'on voit les conséquences du dérèglement climatique. C'est là où ça apparaît concrètement, le temps, le climat, mais le temps aussi, la météo joue un rôle important. Je ne veux pas gâcher le livre, mais en tout cas, on sent la prégnance du dérèglement climatique.
Est-ce qu'on peut dire, Lieke Marsman, que Ida, c'est vous ? Et si c'est le cas, elle parle aussi de son sentiment d'être coupable.
Yes and no. So part of it.
Alors oui et non. Oui, une partie de ce personnage, c'est un peu moi. Mais il y a aussi beaucoup de choses que j'ai inventées.
It's definitely something that I felt at the beginning.
En revanche, cette culpabilité, oui, je l'ai ressentie quand j'ai commencé à écrire ce livre. Et je crois que c'est grâce à l'écriture que je me suis un peu débarrassée de ce sentiment de culpabilité. Et maintenant, je ne me sens plus coupable, pas trop, parce que je comprends le fonctionnement même du système. Et comme l'a dit Greta Thunberg, ce sont toutes les grandes sociétés qui devraient être tenues responsables. On ne peut pas tenir des individus responsables du dérèglement climatique. Il faut pointer du doigt eh bien, les grandes entreprises, les gouvernements qui restent passifs, inactifs. Et puis, ça ne fait pas avancer les choses de se sentir coupable tout seul dans son coin. Quand on se sent coupable, je crois qu'on est entravé, inhibé dans l'action, justement.
Et alors, dans votre livre, vous citez Naomi Klein, vous citez aussi Timothy Morton. Qu'est-ce qu'ils représentent pour vous? Puisque ce sont effectivement des auteurs et des acteurs de cette transition écologique qui sensibilisent eux-mêmes par leurs livres.
Oui, je crois que ces deux auteurs m'inspirent beaucoup. Ce sont des modèles pour moi. Naomi Klein a su faire beaucoup de recherches sur son sujet et elle a écrit un livre qui m'a servi d'introduction aux sciences du climat. Et Timothy Morton, lui a davantage recours à son imagination pour bâtir toute une philosophie qui m'a fait regarder la vie et les humains sous un jour différent.
Et alors, votre pays, Lieke Marsman, les Pays-Bas, quel regard jetez-vous sur lui? Comment se classe-t-il, selon vous, dans la lutte face au réchauffement climatique, en sachant que c'est un des pays qui est face au danger de submersion prévu par les scientifiques du GIEC?
C'est exact. Ce risque de submersion. Et c'est bizarre parce que la plupart des Néerlandais le savent parfaitement, connaissent cette menace. Et pourtant, au niveau des politiques, rien ne bouge. C'est un peu comme ce qui se passe en France. Notre premier ministre, agit un peu comme Macron. C'est-à-dire, on écoute les jeunes manifester, on écoute leurs arguments, mais on ne fait rien, même si on fait semblant de leur prêter une oreille indulgente et intéressée. Mais au final, c'est toujours les lobbyistes, les groupes de pression qui emportent le morceau et ont le dernier mot. C'est eux qui se font entendre et les grandes entreprises.
Est-ce qu'on peut dire que pour vous, Lieke Marsman, l'écriture, c'est votre arme aujourd'hui pour sensibiliser les lecteurs, les citoyens à cette urgence climatique ?
Oui, on pose souvent cette question. Quel peut être le rôle de la littérature face au dérèglement climatique? Bien sûr, les mots peuvent changer des choses. La littérature, un livre, peut changer la manière dont on pense, dont on réfléchit, mais ça ne suffit pas, les livres. Donc, j'espère que mon livre, comme beaucoup d'autres, seront utilisés par des citoyens pour aiguiser leurs couteaux. C'est une métaphore, bien sûr. Mais justement, fourbir leurs armes et s'en servir pour étayer leurs arguments quand ils sortent dans la rue et puis pour pratiquer la désobéissance civile.
Qu'est-ce qui vous rend positive aujourd'hui? Puisque dans votre roman, avec votre personnage, on sent qu'il y a l'espoir mais face à la peur.
Oui, je crois que c'est une lutte perpétuelle, ce combat entre l'espoir et la peur, à l'image de la vie. Mais ça me remplit d'espoir quand je vois tant de gens dans les rues, notamment des jeunes dans les rues qui manifestent, parce que ce seront eux la prochaine génération de femmes et d'hommes politiques. Et si eux-mêmes sont convaincus que des changements peuvent advenir, que c'est possible, et qu'ils sont déterminés à faire advenir ces changements, ben oui, il y a de l'espoir. Voilà. Et ça me réjouit.
Dernière question. On a tous, où que l'on soit, un petit coin de paradis, ou un lieu qu'on préfère plus que d'autres, ou qu'on a envie de sauver parfois contre des atteintes. Votre coin de paradis à vous, aux Pays-Bas, Lieke Marsman, c'est lequel?
My paradise has mountains.
Mon petit coin de paradis, eh bien, il a des montagnes. Donc les Pays-Bas, évidemment, ne s'y prêtent pas beaucoup. Donc si je devais choisir un petit coin de paradis, ce serait les Alpes, sans doutre, ou une autre chaîne de montagnes.
Which is also where the book takes place, so.
Et d'ailleurs, c'est là où se déroule mon livre, dans les Alpes.
Merci, Lieke Marsman. Et je rappelle le titre de votre livre, Le contraire d'une personne, titre de votre roman traduit et publié chez Rue de l'Échiquier. Merci à Eve Der qui était à vos côtés. Et toutes les informations, bibliographies, les liens sont à votre disposition sur le site de l'émission franceculture.fr, rubrique de cause à effet. Téléchargement, réécoute à loisir. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter, hashtag DCAEffet, ou sur notre page Facebook. Et bien sûr, vous restez à l'écoute de France Culture. C'est la suite de vos programmes dans un instant avec Être et Savoir et Louise Touré.